tous réclament des actes plus forts pour lutter contre le changement climatique.
La pollution au plastique, de plus en plus envahissante.
Plus verte la vie. Comment des habitants de notre région, entre Berry, Centre-Val de Loire ou Poitou-Charentes, agissent pour répondre aux défis climatiques. Un podcast du groupe La Nouvelle République.
Être résilient le plus possible.
Pourquoi c'est si compliqué de bien manger ?
Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
Circuit court, venir des éco-citoyens.
Moi, c'est Marie-La Esvent. Je suis journaliste à La Nouvelle République en Indre-et-Loire. Quand j'ai découvert l'histoire de la ferme du Joyeux Laboureur, une ferme qui a connu 4 générations de paysans et plusieurs décennies d'évolution de pratiques agricoles, j'ai voulu savoir comment Guillaume Turquois, arrière-petit-fils, petit-fils et fils d'agriculteurs conventionnels, avait basculé vers une exploitation bio, orientée vers la transformation et les circuits courts. Alors je suis allée à sa rencontre, du côté de Chinon. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'il m'a rapportée. On n'hérite pas de la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants.
Donc, je suis donc Guillaume Turquois, de la ferme de Joyeux Laboureur. J'ai 51 ans et je suis donc agriculteur bio à Marseille, à côté de Chinon.
D'accord. Alors ici, on est dans la ferme familiale que vous avez repris. Je crois que vous êtes la 4e génération. Vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de cette ferme ?
Alors oui, effectivement. Donc mon arrière-grand-père a récupéré la ferme à la fin de la Deuxième Guerre, qui était plutôt une ferme en friche puisqu'elle avait été un peu laissée à l'abandon. Et donc a commencé à développer l'agriculture telle qu'elle se faisait à l'époque. Donc ensuite, mon grand-père est venu travailler sur cette ferme en tant que commis. Il s'est amouraché de la fille du patron, voilà. Et donc ils ont repris la ferme suite à l'arrêt de mon arrière-grand-père. Donc ils ont fait évoluer cette ferme, là encore, dans le système agricole de l'époque, en polyculture élevage. Donc mon grand-père a travaillé avec les chevaux, mon grand-père livrait du lait en charrette, etc. etc. Et donc il est passé de ce système d'agriculture à l'agriculture un peu plus intensive avec la mécanisation, avec l'arrivée des tracteurs, avec l'arrivée de la chimie, des engrais, etc. Pour développer ce qu'on leur demandait à l'époque, de la nourriture pour les Français et pour reconstruire le pays. Donc suite à ça, ils ont eu 3 enfants, dont mon père et mon oncle, et ma tante bien évidemment. Et dans les années 80, donc mon père et mon oncle ont repris la ferme derrière mon grand-père, dans un système de polyculture élevage toujours, et ils ont continué dans un système conventionnel, classique, mais sans vraiment aller dans un système de développement à outrance, ce qui fait qu'à un moment, l'exploitation s'est trouvée un petit peu dans la difficulté, comme beaucoup des petites exploitations de l'époque. Et donc, en fait, ils étaient sur une exploitation où ils ne maîtrisaient plus rien, où on leur imposait leur système de culture, leur système de production de lait, etc. etc. Et donc, le GAEC a fini par s'arrêter. Mon père a repris de son côté, et mon oncle du sien. Et puis, mon père a été péniblement jusqu'à la retraite dans les années 2015. 5, 6, et donc moi j'ai repris en 2007, début 2007, dans un système conventionnel classique, puisque mon père a continué un petit peu l'exploitation, et puis est arrivé les années 2016-2017, où on commençait à être un petit peu moins dépendant du monde qui nous entourait, et donc à ce moment-là s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait.
C'est-à-dire, quand vous dites moins dépendant du monde qui nous entourait, ça...
C'est-à-dire que globalement, j'avais plus de dettes sur du matériel. Le matériel était assez vétuste, mais les tracteurs étaient payés. J'avais pas de dettes envers les coopératives, pas de dettes envers de fournisseurs quelconques. Et donc, je m'autofinançais dans un système conventionnel. Donc, j'avais plus d'impératif, parce que le problème de l'agriculture... telle qu'elle était faite et telle qu'elle peut être encore aujourd'hui pour certains, c'est qu'en fait les agriculteurs payent leurs intrants avec l'ancienne culture, enfin il y a des avances sur culture, enfin il y a toute une organisation qui fait que souvent on est pieds et mains liés avec nos fournisseurs, ce qui fait qu'on décide plus de ce qu'on a envie de faire, de comment on veut le commercialiser, de qu'est-ce qu'on veut faire comme type de culture, etc., etc. Et j'avoue que moi, ce n'était pas un système dans lequel je me retrouvais. Et je me suis dit, mais ça ne me ressemble pas, il faut que je trouve une solution. Soit je me retrouve dans l'agriculture et je fais quelque chose qui me ressemble, soit j'arrête et je laisse l'exploitation à quelqu'un qui la fera. Et ça, ce n'était pas possible.
Et pourquoi ça ne vous convenait pas ?
On fait parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'il faut nourrir la France ou la planète ou je ne sais qui. Mais quelquefois, j'avoue que moi, monter sur un tracteur avec un pulvé derrière, c'était pas ma tasse de thé, j'y prenais mais alors aucun plaisir. Et j'avais un sentiment qu'en continuant ce système, j'allais repartir dans un système de dépendance du monde agricole qui m'entourait. Et ça, je voulais pas. Je voulais absolument pas. Je voulais plus être dépendant de qui que ce soit, ou du moins le moins possible, puisqu'on est toujours forcément un peu dépendant de quelqu'un. Mais voilà, je voulais pas. Et puis peut-être que j'avais mes enfants en bas âge, peut-être que quand je respirais la chimie dans mes champs, c'était pas quelque chose c'était quelque chose qui intérieurement me questionnait. Mais finalement, c'était comme ça et c'était comme ça. Et puis à un moment, j'avais quand même quasiment 40 ans, hein, donc c'est pas toujours facile de sortir d'un héritage familial, d'un système global dans lequel on baigne, depuis le regard des autres, la peur aussi d'être pris pour un uluberlu, c'était peut-être le dernier des arguments, mais y a toujours un petit peu ça, ou même pour mon père, retrouver un peu de mauvaises herbes dans ses champs, diminuer les rendements, enfin, c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on a vu nos grands-parents qu'on cherchait à faire de l'expansion, de ce qu'on a appris à l'école. Donc c'est quelque part un bouleversement. Et autant quand je l'ai fait, et que j'ai pris la décision, tout a été très très limpide derrière. Mais tant que la décision n'est pas prise, on a toujours des questions qui se rajoutent par rapport à l'entourage, l'environnement.
Et pourtant, vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs conventionnels. Vous avez été formé dans un lycée agricole. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas spécialement orienté sur le bio. Enfin, comment vous y avez pensé, tout simplement, en fait ? Parce que, en général, les lignes...
Parce que, très franchement, je pense qu'il y avait une dynamique sur le territoire français où on en entendait de plus en plus parler, où ça devenait de moins farfelu de réfléchir à l'agriculture biologique, où effectivement on a commencé à parler des problèmes d'environnement, des problèmes de réchauffement climatique, des problèmes d'eau. Et effectivement, moi aujourd'hui, je suis très très attaché à me dire, j'ai un copain qui dit on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à nos enfants. Et pareil pour l'eau, et pareil pour tout ça. Et j'ai pris conscience que il fallait essayer de faire le maximum pour laisser à nos enfants une planète et un pays, notamment parce que beaucoup on dit souvent que notre action à l'échelle de notre territoire représente rien à l'échelle de notre planète. Alors peut-être, mais en tout cas à l'échelle de notre pays, elle est importante, à l'échelle de nos réserves d'eau, à l'échelle de notre biodiversité, de notre environnement. On est tous acteurs de ça. Et pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être acteur et de me dire, mes enfants ne pourront pas me reprocher certaines choses. Mais surtout, je me suis permis d'y réfléchir à partir du moment où j'avais plus cette pression économique autour de moi. Parce que c'est facile de pouvoir réfléchir à ça quand on a moins de pression économique. Mais quand elle est là, les banques, les machins, tout ça, il faut quand même assurer la pérennité de cette exploitation familiale. Et je ne voulais surtout pas être celle qui bouffe l'héritage, quoi, entre guillemets. Donc, voilà.
Alors, la pression économique n'était plus là, mais votre père, je crois, on l'a croisé tout à l'heure, il est toujours là. Comment vous lui avez expliqué cette volonté de changement et qu'il y aurait de l'herbe dans les champs, comme vous dites ?
Lui, il ne comprenait pas, très clairement. Il passait de 80 quintaux à hectare à 30 ou 40 quintaux, voire 25. C'était pas possible, c'était pas viable. Qu'est-ce que vont dire les gens ? Il va y avoir des herbes dans les champs. Qu'est-ce que vont dire machin ? Pour la génération précédente, le regard de l'environnement est très très important. Certainement un peu trop, parce que ça les a empêchés de prendre peut-être certaines décisions. Mais moi, en tout cas, j'étais libéré de ce système. Donc j'ai dit, c'est pas compliqué, si tu veux que je continue en conventionnel, tu payes les factures. Et puis moi, je fais de l'agriculture comme tu veux, parce que tant que t'es là, c'était ta ferme, machin, etc. Mais et puis, évidemment, je connaissais la réponse, puisqu'il n'avait absolument pas les moyens. Déjà, pour l'exploitant, c'est pas facile, mais pour un retraité qui gagne rien, c'est encore pire. Et j'ai dit, si tu peux pas, ça tombe bien, parce que moi non plus. Donc, je me lance dans cette... Et puis la discussion était close. Et je dois dire qu'assez rapidement, en plus, à l'époque, l'agriculture biologique était plutôt dans une... On a commencé quasiment juste avant le Covid, etc. Donc le Covid a créé une dynamique assez importante. Donc tout de suite, on a créé de l'activité, on a embauché une personne, les gens ont commencé à venir sur la ferme, et la ferme s'est mise à revivre assez rapidement, finalement. Et tout de suite, je dois dire que je pense qu'il est assez content de ça, parce que la plus grosse difficulté des agriculteurs aujourd'hui, c'est la solitude. Et je pense que c'est quelque chose qui a pesé pour eux, parce que à l'époque de mon grand-père, moi, je l'ai à peine connu, mais c'était des fermes où il y avait du monde qui passait, il y avait les tiers, il y avait les machins, enfin il y avait même des voisins qui venaient chercher du lait, etc., etc. Puis tout doucement tout ça s'est terminé, et puis on s'est retrouvé dans nos fermes tout seul. Alors tant qu'il y avait un peu de famille autour, je pense que ça permettait de garder une certaine dynamique dans la ferme, et puis tout doucement les familles se sont séparées, etc., etc. Puis après les gens se sont retrouvés tout seuls, et là tout seul sur une exploitation quand les choses sont difficiles comme ça l'est aujourd'hui, c'est juste très très difficile à vivre, quoi.
Parce que là, non seulement vous êtes passé en bio, mais aussi en circuit court, en transformation, vous êtes vraiment, comme on dit, du champ à l'assiette.
Absolument.
Quasiment.
En fait, assez rapidement, quand l'agriculture biologique a commencé, je me suis vite rendu compte que vous voulez me faire signer des contrats pour livrer mes prix, mes céréales à tel prix, pour m'engager auprès de mes coopératives à faire ceci, m'engager à faire cela, voilà, et me retrouver assez rapidement, encore une fois, pieds et mains liés. Et alors là, j'ai tout de suite dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans le système. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on valorise au maximum, qu'on essaye de transformer, de réduire notre dépendance au circuit long, à la mondialisation, de façon à pouvoir être autonome sur nos fermes. Et donc, on était allé faire un petit voyage en Italie, et où on a vu un petit peu toute cette micro-organisation des exploitations agricoles, et on s'est dit, mais nous, on peut faire ça aussi. Pourquoi on nous a mis en tête qu'on était juste des producteurs de blé et qu'on était juste bon à vider dans des fosses? C'est pas vrai. Faire de la farine, mon grand-père en faisait. Rajouter de l'eau et faire des pâtes, bon, faut de l'investissement, très clairement. Et faire du commerce, parce que ça, c'est, pour beaucoup, c'est une crainte. Donc, ça demandait 6 mois pour aller vers la transformation. Et on s'est dit, il faut y aller. Et du coup, bah, pour le coup, relancer des investissements, mais pas des investissements de machinisme agricole, des investissements de valorisation, de travailler sur de la valeur ajoutée de notre matière première. C'était ça l'idée.
Vous pouvez me faire visiter un petit peu là, justement tout ce qui est transformation, me montrer un petit peu la ferme rapidement?
Oui, bien sûr. Parce
qu'à la base ici, donc, c'était ferme laitière.
Voilà, ferme laitière. C'est-à-dire qu'en fait, l'atelier de transformation a été fait dans une grange qui servait de sas pour entrer dans l'écurie qui contenait 60 vaches laitières, qui a été construite en 73 par mon grand-père. L'année de ma naissance, voilà. Donc en fait, on a créé, on a dans la zone de l'huilerie, c'était l'ancienne laiterie. Donc là, on a aménagé ça notamment avec une presse à huile qu'on a achetée en Cuma. Voilà, donc...
Cuma,
La Cuma, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon modèle économique, moi, je ne mise pas sur le tracteur, je ne mise pas sur le matériel. Toutes ces diminutions de coûts de production me permettent d'investir dans un système de transformation et de valorisation et de valeur ajoutée.
Donc là, il y a une huilerie, c'est ça?
Donc là, on a une huilerie où on est en train de faire de l'huile de tournesol. Voilà. Donc là, on a quelques cuvinox, on a le tourteau là, de tournesol, voilà, qu'on est en train de faire. Et donc, on a l'huile de tournesol qui sort de cette presse, qui décante dans un petit bac, qui va dans un deuxième bac et ensuite qui va être envoyé dans une cuve inox pendant un mois en décantation. Voilà.
D'accord. Et le tourteau, là, vous en faites quelque chose?
Alors, le tourteau, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre système de transformation, eh bien, tous nos déchets de transformation sont valorisés auprès des éleveurs. C'est-à-dire que là, par exemple, je travaille avec le Vazereau, qui fait du fromage de chèvre bio. Et donc, lui, il récupère ses tourteaux pour les chèvres. Et donc, en fait, et d'ailleurs, c'est avec lui qu'on a les partenariats pour les prairies de Luzerne aussi. Et donc, en fait, on essaye de faire en sorte que ce qui peut nous permettre à nous de rentrer dans un système pérenne leur permettre à eux d'avoir une nourriture qualitative à des coûts moindres que des coûts des produits industriels qui, en plus sur lesquels ils n'ont pas tout à fait les origines, quoi. Voilà. Donc là, ils savent d'où ça vient, ils savent par qui c'est fait. Ils peuvent aussi, voilà. Et pour le coup, ça crée vraiment une dynamique locale, quoi.
Et sans déchets.
Et sans déchets, voilà, tout à fait. Donc là, alors on va passer de l'autre côté, parce que c'est fermé. Alors on va passer par le magasin.
Allez.
Alors je vais juste vous expliquer. En fait, ce magasin et cette pièce, en fait, à l'origine, c'était mes grands-parents qui ont refait cette pièce. Donc là, on avait la chambre de mon arrière-grand-père et la chambre de ma tante, qui est ma marraine en l'occurrence. Ici, on avait deux pièces où il y avait la chambre du commis de l'exploitation, qui vivait dans la moitié de ça. Et donc, on a créé cette ouverture pour aller dans la grange où là, on stockait du matériel. Et aujourd'hui, on a une partie de notre stockage de lentilles, de sachets de pâtes. Et dans la pièce d'à côté, on a la zone d'ensachage, notamment pour ce qui est lentilles, pâtes, etc. Et surtout la partie fabrication de pâtes avec l'extrudeuse qui nous permet justement de sortir l'ensemble des pâtes et les deux séchoirs qui sont derrière qui permettent de sécher sur des séchages très longs les pâtes pour conserver un maximum de qualité nutritive au niveau de la pâte. C'est-à-dire que nous, on sèche quasiment pendant 22-24 heures selon la forme de la pâte. Donc là, Karine est en train d'en sécher les lentilles vertes. Donc là, c'est un peu nos petits bijoux. C'est vraiment un produit sur lequel on mise beaucoup parce que c'est de la légumineuse, parce que c'est de la protéine végétale. Parce qu'aujourd'hui, bah, ça fait partie du modèle qui va falloir mettre en place, diminuant la protéine animale et aller vers de la protéine végétale. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de travailler un maximum sur ce type de produit, avec les pois chiches, avec les pois cassés qui vont se mettre en culture cette année, etc., etc.
Et vous avez aussi la meunerie, c'est ça, à côté?
Donc la meunerie, elle est... qui était avant dans cette pièce, a dû déménager parce qu'on commençait à être un petit peu ric-rac. Et donc là, alors le moulin tourne, je ne sais pas si ça... C'est des modèles où chaque tâche est importante. Voilà, il y a vraiment... évidemment, produire, c'est bien, mais bien transformer, c'est bien aussi. Et bien vendre, c'est bien aussi, etc. etc. Donc s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, le système ne sera pas valeureux, quoi.
Et là, face au... Voilà, on nous prévoit un réchauffement à 2, 3, 4 degrés, plus d'eau, des événements climatiques. Vous réfléchissez encore à faire évoluer vos pratiques? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent bouger?
Pour le coup, depuis 5-6 ans, les pratiques ont énormément évolué déjà. Donc pour l'instant, on essaye de stabiliser un peu les choses, de regarder un peu comment tout ça se comporte. On discute beaucoup avec les gens autour de nous, les intercommunalités, les mairies, les écoles, etc. On essaye de partager un petit peu nos visions, nos craintes, mais aussi nos raisons d'espérer, quoi, parce qu'il faut quand même laisser un avenir à nos enfants, leur donner de l'espoir. J'ai vraiment le sentiment de faire la part de mon travail pour leur permettre de... Alors, je ne parle pas spécialement de mes enfants, mais en tout cas aux générations futures d'agriculteurs, notamment par le travail collectif, parce que je suis président de CUMA, de dire... On leur laisse une chance d'y arriver à eux aussi. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, quoi, dans l'espoir qu'on peut donner aux jeunes générations.
Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.